Bienvenue dans Adolescence, le podcast qui nous apprend ce que l'on n'a pas appris à l'école. Je suis Louise Aubéry et j'ai souhaité demander aux meilleurs experts de m'aider à affronter la vie d'adulte. Dans cet épisode, j'accueille le docteur et auteur Jimmy Mohamed, qui vient d'écrire un livre « Je mange bien, je vais bien » aux éditions Flammarion, pour répondre à la question « Faut-il bien être pour bien vivre ?» Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous taguer dans vos posts et vos stories @franceinter et @louiseaubéry. Et je vous souhaite une très bonne écoute.
Je me suis toujours demandé comment je serais une fois adulte.
Je veux parler à un adulte!
Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants.
Sois jeune et tais-toi.
Être un adulte, définition.
Grandis-toi et grandis.
Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes.
Ça veut dire de grandir.
Lettre à mon corps de Jacques Salomé. C'est à toi que je veux dire aujourd'hui combien je te remercie de m'avoir accompagné depuis si longtemps sur les multiples chemins de ma vie. Je ne t'ai pas toujours accordé l'intérêt, l'affection ou simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t'ai même ignoré, maltraité, matraqué de regards indifférents, de silences pleins de doutes, de reproches violents. Tu es le compagnon dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et aujourd'hui, je te découvre un peu ému avec tes cicatrices secrètes, ta lassitude, tes émerveillements et tout est possible. Je me surprends à t'aimer. Mon corps, combien de violences as-tu affronté pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi? Combien d'accidents as-tu traversé pour me sauver la vie? Combien d'abandons as-tu accepté pour me laisser entrer dans le plaisir? Bien sûr, il m'arrive parfois de te partager et même de te laisser aimer par d'autres, par un que je connais et qui t'enlèverait bien si je le laissais faire. Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie commune. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. Qu'est-ce que ce texte vous évoque? Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, d'avoir dû à un certain moment devoir faire la paix avec votre corps?
Ça m'évoque un truc assez simple, c'est qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé seulement le jour où on perd sa bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et souvent, on a cette définition de la bonne santé, c'est une couronne que les bien portants portent, mais que seuls les malades voient. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a simplement à partir du moment où on n'a plus la chance d'être en bonne santé. Et peut-être qu'il faut être reconnaissant d'être en bonne santé, de se lever le matin, de pouvoir, je sais pas, prendre le bus, le métro. C'est déjà une chance de prendre un petit déjeuner. C'est déjà une chance. Peut-être d'avoir un ami. C'est déjà une chance. D'avoir un parent. C'est déjà une chance. Et peut-être que c'est cette notion de gratitude qui est indispensable et qu'on laisse parfois à certains... C'est un peu ésotérique, la gratitude. Mmh. Mais je pense qu'il faut que ce soit plus reconnaissant d'avoir un corps, surtout quand il est en bonne santé.
À l'école, on n'apprend pas tellement à se nourrir, à apprendre comment bouger, à apprendre comment prendre soin de son corps. Vous avez déjà dit que la société crée des malades. Dans quel sens et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier?
Notre société crée des générations d'enfants malades qui vont devenir des adultes malades. Ils seront adolescents avant, ils seront malades, et ils seront malades en étant adultes. Alors l'idée, c'est de se dire, bon, on va quand même essayer d'améliorer la tendance, mais est-ce que c'est à l'école de tout faire? On se rend compte qu'on est très mauvais en maths, on est mauvais en français, on est mauvais en anglais. Est-ce que l'école doit être un lieu où on apprend aussi à bien manger, bien dormir, bien bouger? Et ben, en fait, je pense que oui. Parce que je pense qu'il est tout aussi important de savoir faire des divisions euclidiennes que de savoir ce qu'est une protéine, un sucre, un lipide. Pourquoi boire du Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé? Pourquoi les Pimps, les Oreos, certes, c'est bon en bouche, mais pourquoi est-ce que ça a une influence catastrophique sur notre santé globale et physique? Pourquoi c'est si important de dormir? Pourquoi est-ce qu'on dort de moins en moins? Pourquoi c'est si important de bouger? Pourquoi est-ce qu'on bouge de moins en moins? Donc je pense que oui, c'est à l'école de réapprendre aux enfants, qui deviendront des adolescents et des adultes potentiellement en bonne santé, parce que c'est le pilier de la vie en bonne santé. Je dis pas qu'on va tout éviter, je dis juste qu'on va donner à nos enfants toutes les chances de grandir dans de bonnes conditions. Et après, on le sait, on n'est pas tous égaux. Il y a les inégalités sociales, l'environnement, la génétique, le hasard ou la chance ou le destin, peu importe comment on appelle ça. Mais c'est à l'école, justement, d'effacer toutes ces inégalités pour permettre aux enfants d'être en bonne santé.
Vous insistez beaucoup sur la notion de prévention, que je trouve finalement extrêmement difficile à rendre compatible avec une société de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est fourni pour qu'on donne le moins d'efforts possible. Comment est-ce qu'on peut rendre finalement ces, ces injonctions paradoxales, comment est-ce qu'on peut les unifier? Enfin, je pense par exemple à la livraison de nourriture. Enfin, c'est vraiment devenu aujourd'hui, voilà, pour celles qui habitent notamment, les personnes qui habitent dans des grandes villes, une commodité. Et finalement, le court terme l'emporte sur le long terme.
C'est vrai. Il y a deux situations. Il y a ce que la société doit faire et nos dirigeants doivent faire, investir dans la prévention. Sauf que malheureusement, on a souvent des politiques sur le très court terme. Un président n'est élu que pour quelques années. Donc forcément, investir sur 20 ou 30 ans, d'un point de vue électoral, c'est pas intéressant. Mais nous aussi, on a tout à chacun à faire ce travail. Ça passe par arrêter de chercher du plaisir immédiat sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. On a de la dopamine en permanence avec du plaisir immédiat qui nous éloigne de l'effort qui produit une récompense. Normalement, après une journée de travail, à l'école, ou lorsqu'on a beaucoup révisé, on doit être satisfait du devoir accompli. On dit « Ah, c'était dur, mais je me sens mieux ». Or, on a perdu ce goût de l'effort, puisqu'on a une récompense immédiate. Donc la première des choses, c'est nous couper un tout petit peu des réseaux, c'est paradoxal, alors que là, on fait quelque chose qui est à destination notamment des réseaux. Mais il faut aussi se dire « Tiens, comment je me détache de cette dopamine immédiate ? Comment je fournis un effort ? C'est vrai que désormais, ChatGPT nous permet sans aucun effort et sans aucune réflexion critique d'avoir toute l'information en quelques secondes sans faire un effort. Et puis, vous l'avez dit, au travers de l'alimentation, c'est vrai dans les grandes villes, mais pas tellement dans les petites villes, sur Deliveroo, Uber Eats, on ne fait aucun effort encore une fois et on a un repas qui vient à la maison sans avoir pris le temps de faire les courses, sans avoir pris le temps de cuisiner et sans même prendre le temps de manger. Et c'est là tout le drame. C'est alors qu'on a un plat qui arrive à la maison, on n'a plus rien à faire si ce n'est le manger peut-être en pleine conscience, on l'avale de façon compulsive. Et on ne se rend pas compte à quel point notre alimentation, elle détermine ce que nous serons. Nous sommes ce que nous mangeons. Je le pense très sincèrement, j'en suis convaincu. Et il faut que les gens prennent conscience que notre alimentation, ce n'est pas juste remplir un estomac. C'est nourrir à la fois son corps et son esprit. Et on a ce travail de se réapproprier l'alimentation. Et je le dis tel que je le pense, mais la science le valide aussi. C'est pas juste moi qui vous dis « mangez mieux, ça ira mieux ». C'est vrai, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Oui, bah justement, on avait relevé une citation que vous répétez parfois, « on mange trop et trop mal ». Mais finalement, c'est quoi manger bien, notamment quand on n'a pas le temps, ou pas les moyens, ou qu'on n'a pas eu cette éducation ?
Il y a trois choses. Pas le temps, c'est qu'on ne se donne pas le temps, en réalité. En vrai, c'est une question de priorité. Dans votre journée, on a des priorités, on a 24 heures. À vous de fractionner et à vous de savoir quelle importance vous allez donner à votre alimentation. En termes de temps, ce temps, on l'a tous en réalité. On a une pause déjeuner, elle est ce qu'elle est, mais en règle générale, si on regarde cette pause déjeuner, on va y consacrer un tout petit peu de temps pour l'alimentation et beaucoup pour des choses différentes. Donc moi, je pense que l'alimentation n'est pas une variable d'ajustement. De la même manière que votre priorité, ça peut être de réussir à l'école, d'arriver à l'heure au travail, de réussir vos examens, de réussir un entretien. Votre alimentation doit être une priorité. Et à vous de vous dire, sur une journée, mon alimentation n'est pas une variable d'ajustement. Et ce sandwich qu'on va avaler de façon compulsive sans aucun intérêt le midi, en fait, il vous fait du mal. On ne se rend pas compte à quel point notre alimentation, elle peut être notre ennemi, mais aussi notre ami. Donc, un, il faut prendre le temps. Deux, il y a la question du prix. Et c'est vrai que la malbouffe, c'est souvent une question d'inégalité sociale. Quand on a du mal à remplir le frigo, à finir les fins de mois, on ne se pose pas beaucoup de questions sur qu'est-ce qui pourrait me faire du bien. Donc, c'est vrai qu'il y a une question de pouvoir d'achat et qu'on observe que les personnes, malheureusement, souvent issues de classes sociales défavorisées, ont une tendance à être plus en surpoids et plus obèses. Et donc, l'alimentation, le surpoids, l'obésité, ce n'est pas qu'une question de « Ah, j'ai la flemme, je suis feignant, je veux manger que… » Non. C'est qu'il y a une question génétique, environnementale et de société. Donc, il faut permettre aux gens de mieux manger. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire, qui ne sont pas forcément mises en place. Mais vous avez raison, une question d'argent. Et puis, il y a une question de connaissance, ça c'est vrai aussi. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut bien manger. Alors là, il y a deux pendants. Le premier, c'est les lobbies de l'industrie agroalimentaire qui nous tabassent du matin au soir avec des publicités. Et vous remarquerez que souvent, l'industrie de la malbouffe, ils ont des millions en publicité, en com, alors que bah, pour des fruits et des légumes, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de spots de pub qui sont cool pour manger des pommes. Pourtant, c'est cool de manger des pommes. Mais on verra des publicités incroyables pour le Red Bull, pour les chips Lay's, pour le Coca-Cola, pour le McDo, des publicités qui vont matraquer notre cerveau, matrixer les jeunes, et considérer que cette malbouffe est une alimentation normale. Donc il faut aussi se poser la question de quels moyens on donne, justement, dans la transmission de l'information, et dans le fait que, oui, manger bien, c'est important, au-delà des spots de pub ringard, 5 fruits et légumes, c'est ringard, c'est nul, mais c'est tellement vrai. À nous peut-être de twister le truc, et peut-être de mettre les moyens dans des campagnes où, ouais, on va dire que manger des fruits et des légumes, c'est stylé. Parce que ça peut être stylé pour votre organisme. Donc à nous de le rendre peut-être plus sexy ou plus intelligible.
Plus aussi désirable.
Ouais. Plus désirable.
C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a presque... Enfin, vu que notre sujet de cette émission, c'est l'adolescence, ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, vu que personnellement, je suis un peu encore dedans, j'ai l'impression qu'il y a une forme de contestation de l'autorité à cette période où finalement, j'en parlais avec des amis en préparant cette émission, où j'ai vraiment le sentiment que quand je suis devenue adulte, j'ai voulu faire ce que je veux parce que j'en avais la possibilité. Qu'il y avait un peu ce sujet du libre arbitre qui nous est tout d'un coup octroyé et que moi je suis vraiment dans une mentalité un peu genre, en fait, si là ce soir je veux manger des pancakes, je mange des pancakes.
Ah, quel piège!
Ouais, mais parce que
non, vous
j'aime cette liberté.
Mais non, vous pensez avoir la liberté, mais vous l'avez pas en fait. On vous fait croire que vous avez cette liberté, mais on vous a mis dans la tête que manger des pancakes, c'est votre liberté. En réalité, oui, ça l'est. Parce que moi aussi, je peux manger des pancakes. La question, c'est la fréquence. Il faut me poser la question de quelle a été l'influence du marketing durant toutes ces années où j'ai grandi, où dans les métros, dans les salles de cinéma, à la télévision, à la radio, on nous matraque de publicité pour de la malbouffe. Et ça a une influence, qu'on le veuille ou non, ça a une influence sur notre cerveau et ça a une influence sur nos prises de décision. Et puis, il faut se poser la question... À la fin d'une journée, pourquoi est-ce que, tout d'un coup, on a tous connu ça, hein, il est 22h, 23h, on ouvre le frigo et on tabasse tout ce qu'il y a dans le frigo. On ouvre le placard et on se met à manger en grande quantité des choses plutôt grasses, plutôt salées et plutôt sucrées. Et souvent, cette alimentation, un peu réconfort, peut traduire un mal-être de ce qui s'est passé dans la journée. Où on n'a pas eu le contrôle, où ça s'est mal passé, où on n'a pas été respecté, où on n'a pas été aimé, où on n'a pas été écouté, où on n'a pas été considéré. Et tout d'un coup, on a le contrôle sur un aliment qui nous apporte du réconfort immédiat et un plaisir. Donc là où on pense avoir une certaine liberté, eh bien je pense qu'on a perdu la liberté de se dire « Ouais, c'est vrai que c'est cool les pancakes. Moi, vous m'en mettez, je vais en manger. » Mais je me pose la question de « Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que vraiment ça me fait plaisir ?» Et je me rends compte que les moments où je suis le plus fatigué, le plus stressé, de moins bonne humeur, c'est les moments où j'ai le plus envie de manger ces aliments. Donc en fait, cette liberté, on pense l'avoir, mais je pense qu'on ne l'a pas et qu'on l'a perdue en réalité.
Vous partagez un véritable plaidoyer pour les aliments simples, pour les œufs, la sardine, enfin voilà, la simplicité. Pourquoi est-ce qu'on ne valorise pas davantage ces aliments?
C'est un mystère. Parce que je pense qu'il y a encore une fois le marketing très agressif de l'industrie agroalimentaire, la publicité. On a aussi pas mal de messages un peu anxiogènes. Alors c'est vrai que notre alimentation, elle pose des questions. Alors là, je bois un verre d'eau. On dit dans l'eau du robinet, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des PFAS. Bon bah foutu pour foutu, je vais aller boire du coca. On nous dit que les légumes sont contaminés. Bon, bah, vu que les légumes sont contaminés, peut-être que ça n'a pas d'intérêt, je vais les mal manger. Et puis, on va nous dire, ah bah attention, les fruits et les légumes ont perdu de leur teneur en vitamines. On nous dit ça avec un aplomb assez incroyable, que les oranges d'aujourd'hui ont perdu 50-60% de leur teneur en vitamine C que dans les années 80. C'est faux, on n'a aucune preuve scientifique de ça. Mais à force de nous matraquer que ces aliments, en fait, que la nature nous offre, c'est pas ésotérique, mais c'est la réalité qui pousse dans la nature... En fait, apporte tellement de bénéfices qu'on a oublié que je pense qu'il faut se réapproprier l'alimentation et qu'on a un rôle d'éducation de se dire que l'œuf, oui, c'est l'aliment parfait, que la sardine, c'est un petit poisson qui coûte pas cher, qui est bon pour le cerveau, riche en protéines et qu'on devrait plus manger. Donc je pense qu'il faut qu'on se réapproprie l'alimentation et qu'il faut qu'on donne aux gens l'information. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, en vrai, j'ai changé mon alimentation, je vois que ça a une influence positive. Je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez. Souvent, on dit, avec toi, on ne peut plus rien manger. Non, mais mangez. Vous voulez manger des McDo? Allez-y. Vous voulez manger des Pimps? Allez-y. Mais mon rôle, c'est de vous donner l'information et vraiment, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai l'intime conviction que si vous mangez mieux, vous irez mieux. Et si vous mangez mal, je ne dis pas que vous irez mal, mais vous augmenterez les probabilités de ne pas aller bien. On a montré, par exemple, que plus un adolescent consomme des produits ultra transformés et de la junk food, plus on augmente le risque d'anxiété et de dépression. Nos aliments conditionnent nos humeurs. Et souvent, on se dit, mais pourquoi est-ce que les jeunes sont anxieux? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de dépression? On va parler des réseaux, on va parler de l'éco-anxiété, on va parler de la société. Mais on oublie que ce qu'on met dans notre assiette, elle conditionne nos humeurs également. Y a une étude assez rigolote. On dit souvent que le poisson, c'est bon pour la mémoire. On a montré il n'y a pas très longtemps que des enfants de 7 à 9 ans, lorsqu'ils consomment du poisson, donc deux fois par semaine, hein, pas besoin d'en manger 10 fois par semaine, eh bien, on observe qu'ils sont plus empathiques que les autres. Le poisson rend les enfants plus empathiques. Et on se dit, mais c'est quoi le lien?
C'est une corrélation, une causalité?
Alors, on a montré que dans le poisson, on a des oméga-3. Ces oméga-3 un peu particuliers, on l'appelle de la DHA, participent à la régulation de l'humeur. Et de la même manière que nos produits ultra transformés peuvent nous déprimer, notre alimentation riche en oméga-3 peut améliorer notre humeur. Donc il y a un lien direct de causalité entre notre alimentation et nos humeurs. Je ne dis pas qu'il faut tout d'un coup manger du poisson, mais il faut se dire « Ah, mais en fait, juste en mangeant du poisson deux fois par semaine, je peux améliorer les choses. » Aucun médicament permet de faire ça. Et après, on va se retrouver à courir après les médecins, courir après les psychologues, les psychiatres, courir après les médicaments. Je ne dis pas qu'on n'a pas forcément besoin de médicaments, je dis juste qu'il y a peut-être des choses à faire en amont et ça commence par l'assiette.
Ça ressemble à quoi une journée dans votre assiette? Genre alors, hier?
Hier, c'est pas de petit-déj. Le petit-déjeuner n'est pas un repas obligatoire. C'est une construction de la société, c'est une construction, encore une fois, des lobbies de l'industrie agroalimentaire qui nous font croire que le matin, on est obligé de manger et de manger plutôt sucré. Donc, on est tous différents. Certains, le matin, se lèvent et ils ont faim. Eux, je leur conseille de manger. Évitez les petits-déjeuners sucrés. C'est les petits-déjeuners qui vont vous donner le plus faim à 10 heures, qui vont vous fatiguer, qui apportent aucun bon nutriment. De temps en temps, le dimanche, vous pouvez vous faire un kiff. Manger des pains au chocolat le dimanche, c'est très bien, mais pas toute la semaine. Donc, le petit-déjeuner n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas faim le matin, certains ont faim à 10 heures. Acceptez de manger à 10 heures si vous avez faim à 10 heures. Donc, ça veut dire qu'on commence par se demander à quel moment réellement j'ai faim. Moi, le midi, si je n'ai pas le temps de m'asseoir à table et de manger, eh ben, je ne mange pas. Je préfère attendre 2-3 heures plus tard d'être assis, de faire un repas, que d'avaler un sandwich à la va-vite. Puisque quand on n'a pas le temps, quand on court après le temps, on va aller à la boulangerie, on va prendre un sandwich qui est composé de pain, très peu de garniture, et en fait, on se remplit de sucre. Donc le midi, si je n'ai pas le temps de manger, je ne mange pas. Le goûter, bah, je peux me faire un kiff. C'est-à-dire que moi, j'adore les flans, donc j'ai aucun problème à aller manger un flan parce que l'alimentation doit être aussi une source de plaisir. Le plaisir n'est pas interdit. Donc je m'autorise un goûter classique. Si je veux manger un gâteau, je mange un gâteau. Aucun problème. Et puis le soir, c'est vraiment basique, hein. Des légumes, un poisson ou une viande blanche ou pas de viande, un dessert avec un petit yaourt blanc ou un skyr, un fruit, une pomme, une banane. Et puis voilà. Et puis si j'ai envie de manger du chocolat, je mange un peu de chocolat. Mais c'est de se dire, combien de fois par jour j'ai besoin de manger? 3 fois par jour, c'est trop, en réalité. Sauf si on a un métier très physique, sauf si on a des besoins particuliers. Est-ce que j'ai besoin de manger très très vite? Je pense pas. Moi, je prends le temps de manger, c'est hyper important. Et puis souvent, on a tendance à manger un peu trop. Donc il faut parfois se dire, il y a un proverbe japonais qui nous dit qu'il faut manger juste ce qu'il faut et s'arrêter à peu près à 80% de satiété. Souvent, on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Il faut s'arrêter de manger un tout petit peu avant, prendre le temps, et en général, ça suffit largement.
Pour moi-même avoir été victime de troubles alimentaires, et je sais que c'est le cas d'une femme sur trois, je pense que le risque, c'est quand même... Enfin, j'en ressors peut-être l'idée erronée que moins je mange, mieux c'est.
Ah, c'est une idée erronée, ça, effectivement.
Parce que, en effet, on peut se dire, ah bah j'ai pas faim, bon bah je mange pas, j'ai pas faim, je mange pas. Pourquoi c'est quand même essentiel d'apporter à son corps un minimum de nutriments pour prendre soin de soi?
Oui, alors c'est vrai qu'il faut distinguer deux choses. On parle de recommandations en population générale, et quand on regarde la population générale, on mange trop. Et attention, je dis pas qu'il faut passer de je mange trop à je ne mange pas. Il y a tout un cheminement et le curseur. Je vais vous donner un chiffre tout simple. Si vous consommez l'équivalent de, je sais pas, moi j'ai 2500 kilocalories, c'est-à-dire vous mangez le matin, le midi et le soir, bah, au lieu de passer de 2500, vous pouvez enlever simplement 10% de vos apports. Le petit surplus qu'on mange qui ne sert pas forcément à grand-chose, bah déjà ça vous permettra d'aller un petit peu mieux si vous avez enlevé des aliments ultra transformés néfastes pour votre santé. Maintenant, quand on a des troubles des conduites alimentaires, effectivement, attention de ne pas passer de ce discours où on mange trop à je mange plus, et là on rentre dans un autre cadre. Mais quand vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut manger? Bah, en fait, il faut manger C'est simple, une voiture, elle a besoin de carburant pour avancer. Vous ne mettez pas d'essence ou d'électricité, elle n'avance pas. Pour notre corps, c'est exactement la même chose. Sans qu'on fasse quoi que ce soit, notre corps, en permanence, utilise des calories, utilise du sucre, utilise du gras, utilise des protéines pour fonctionner. Notre cerveau consomme 20% de notre énergie globale. Donc si on ne mange pas, eh ben forcément, on est plus fatigué, des troubles de l'humeur, plus d'infections, plus de blessures, des troubles du sommeil. Donc ça va dérégler l'ensemble de nos fonctions. Donc on a besoin de manger. À nous de trouver le curseur pour savoir de combien on a besoin de manger exactement.
Comment savoir si on prend soin de soi ou si on se conforme à une norme ? Dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'injonctions au bien-être qui sont, qui émanent de différentes personnes. Comment est-ce qu'on peut réussir à identifier ce qui vraiment nous fait du bien et pas juste ce qu'on fait parce qu'on a le sentiment qu'on doit le faire ?
Ah, on doit aussi faire des choses parce qu'on n'a pas le choix. Hein. On va travailler alors qu'on n'a pas forcément envie d'aller travailler. Et des matins, moi j'ai une flemme incroyable, je serais mieux dans mon lit à dormir que d'aller travailler, pourtant je m'oblige à le faire. De la même manière qu'il faut s'obliger à faire certaines choses. Moi je dis, quand je vois certains patients et que je leur dis, écoutez, là vous avez une dépression légère à modérée, elle n'est pas sévère, et je vous explique que votre activité physique que je vais vous recommander, je vais prendre mon papier et mon stylo, je vais écrire, pratiquer de l'activité physique à 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est une prescription médicale, c'est un médicament. Et pour votre santé, et je vous le dis parce qu'en fait, j'ai rien à gagner. En vrai de vrai, que le patient, il aille mieux ou pas, moi, le soir, je vais dormir de la même manière. Et quand je leur donne l'information, c'est que je suis convaincu que je peux les aider. Et je leur dis, c'est une prescription médicale, vous allez aller mieux. Ça va être dur au début, je ne dis pas qu'on va tout résoudre, mais vous allez aller mieux. Donc, il y a 3 choses qui sont indispensables pour votre santé. Une bonne alimentation, une bonne activité physique et un bon sommeil. Si vous mettez ces 3 éléments où vous faites le maximum, ce ne sera jamais parfait de toute façon. Mais si vous vous astreignez en disant « je vais faire attention à ce que je mange », ça ne veut pas dire « je ne mange plus », ça veut dire « je mange mieux ». Je vais faire de l'activité physique et je vais m'obliger à en faire, même si je n'aime pas ça, et je vais faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour bien dormir, eh bien, je vous promets que vous allez éviter non seulement des troubles mentaux, des maladies physiques, et que vous allez mettre toutes les chances de vos côtés pour vivre longtemps et en bonne santé. Après, ouais, on n'est pas tous égaux, je le reconnais, mais il faut comprendre que c'est indispensable. Et moi, je me l'oblige. Ouais, il y a des jours, j'ai pas envie de bien manger, j'ai envie de mal manger. Et des fois, je mange mal. Mais je me dis quand même, je sais que ça a une influence. Et comme j'ai compris l'influence que ça pouvait avoir, qu'elle soit positive ou négative, je vais quand même faire un effort. Et je dis pas que ce sera parfait, je dis juste que si on fait tous ces efforts, je suis persuadé qu'on améliorera des choses.
Est-ce que prendre soin de soi, finalement, c'est ça qui fait passer à l'âge adulte ? Dans le sens où on devient responsable de nous-mêmes, de notre propre bien-être, on est obligé d'assumer une réalité qu'on pouvait un peu faire semblant d'ignorer ou d'ignorer quand on était enfant ou ado. Donc est-ce que pour vous, le fait d'apprendre à prendre soin de soi, c'est ce qui nous fait passer à l'âge adulte ?
Non, parce que ça sous-entendrait qu'il ne faut pas prendre soin de soi avant. Or, en réalité, quand on se rend compte que 15 à 20% des enfants de moins de 11 ans ont des troubles psy, on se dit, mais mince, à 6-7 ans, on ne doit pas avoir de troubles psy. La vie, elle doit être belle, en fait. On doit kiffer notre vie à 6-7 ans. Il y a des enfants qui ne vont pas bien, donc il ne faut pas attendre l'adolescence, l'adulte, et d'être vieux pour prendre soin de soi. Je pense que c'est une construction qui se fait... que les adultes doivent faire aussi pour nous. On doit essayer de protéger par l'environnement, nos parents, le système éducatif, la société doit prendre soin des enfants pour leur permettre d'être des adultes accomplis et épanouis. Et puis, adulte, qu'est-ce que ça veut dire ? Civilement, on est adulte à 18 ans. En réalité, à 18 ans, on est encore un enfant. On se croit très fort à 18 ans. On se croit très intelligent. On se croit invincible. En fait, en réalité, à 18 ans, on est encore un grand enfant. Et le cerveau, en tout cas, c'est particulièrement vert pour les garçons, un petit peu moins pour les filles. Il devient adulte aux alentours de 25 ans. Et même moi, quand je me regarde à 25 ans, en vrai, j'étais encore un enfant à 25 ans et pourtant, j'avais des responsabilités. J'étais déjà père de famille, je terminais mes études de médecine. Et à 25 ans, je restais encore un enfant. Donc, est-ce que vraiment on est adulte à 18 ans ? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il faut attendre d'être adulte pour prendre soin de soi ? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il faut prendre soin de soi quand on est adulte ? La réponse, c'est oui.
Qu'est-ce qui est sous-estimé dans le fait de prendre soin de soi ? que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent ?
Dormir. Tellement accessible à tous. On se rend compte qu'en 20 ans, les Français ont perdu entre 1 heure et 1 heure et demie de sommeil par jour. L'air de rien, les réseaux sociaux, les téléphones, les plateformes volent notre temps de sommeil. Et on n'est pas tous égaux, on n'a pas forcément besoin tous de dormir le même nombre d'heures, mais si on prend une moyenne de 7 heures, voilà, certains c'est 6, d'autres c'est 8, d'autres c'est 9, mais prenons une moyenne de 7 heures. En perdant 1 heure de sommeil par nuit, on se dit 1 heure c'est pas grand chose. Au lieu de me coucher à 23 heures, je me couche à minuit, ça va, j'ai regardé quoi, un épisode de plus, ça va, j'ai été sur Instagram et alors. On se rend pas compte qu'à la fin de la semaine, au bout de 7 jours, vous avez perdu 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil, ça veut dire que vous avez fait une nuit blanche. Or, durant la nuit, notre cerveau nous répare. La nuit permet d'éliminer les toxines. Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui dort, on se rend compte que l'espace entre les cellules augmente pour laisser passer les toxines. Et c'est durant la nuit qu'on répare notre cerveau. C'est durant la nuit qu'on va faire des rêves et des cauchemars. Pourquoi est-ce qu'on rêve ? À quoi servent les rêves ? À digérer les émotions de la journée. On a tous connu ça, on se couche le soir, on est énervé contre quelqu'un, on se réveille le lendemain, ça va un peu mieux quand on a bien dormi. On n'a pas réglé le problème, mais on va un peu mieux. On dit que la nuit, les chats sont gris et qu'on commence à psychoter. La nuit, on a toujours des pensées un peu étranges. Et le matin, ça s'améliore. La nuit permet de prendre soin de sa santé mentale. Un adolescent, un adulte qui ne dort pas la nuit, il a plus de risques d'anxiété et de dépression que les autres. Le manque de sommeil rend dépressif. Le manque de sommeil fait qu'on va manger plus, on va prendre du poids. Durant la nuit, vers 1h du matin, il y a un truc incroyable qui se passe. Au niveau de la peau, on a une couche superficielle qu'on appelle l'épiderme. Et durant cette nuit, elle se renouvelle. La nuit permet de réparer les blessures physiques. Elle cicatrise. Durant la nuit, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans une cellule, on a un noyau. Dans ce noyau, on a des chromosomes. Et au bout de ces chromosomes, on a ce qu'on appelle des télomères. Les télomères, c'est ce qui détermine l'espérance de vie. À mesure qu'on vieillit, ces télomères diminuent de volume. Et lorsque les télomères ont disparu, la cellule disparaît. C'est le vieillissement normal. Lorsque vous dormez, on a des petites couturières qui viennent réparer ces télomères. En fait, le sommeil, c'est le médicament le plus efficace, le plus précieux, pour lequel il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est poser sa tête et dormir, en dehors de ceux qui ont des troubles du sommeil, qu'on devrait s'astreindre. Dormez. Vraiment, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Même chose quand vous voulez réviser, c'est durant la nuit qu'on consolide la mémoire. Le sommeil, c'est magique. Il faut vraiment prendre conscience qu'on dit que la nuit permet aux enfants de grandir, c'est vrai, mais pas que c'est tellement réducteur et on pourrait passer une émission entière sur les pouvoirs extraordinaires du sommeil.
J'aime bien dire un slogan politique. Dormez. Avant de passer à la petite interrogation surprise, si vous deviez transmettre à un jeune adulte, un jeune adolescent qui nous écoute, 3 habitudes à ancrer facilement pour prendre soin de lui ou d'elle, ce seraient lesquelles ?
Très facile, on va dire que je tourne en boucle, hein, mais pour moi c'est toujours pareil. Bouger. L'activité physique, en fait, on ne se rend pas compte à quel point, comme le sommeil, comme l'alimentation, c'est un allié. Quand vous faites du sport, au début, c'est une flemme incroyable. Et souvent, on cherche la motivation pour faire du sport. C'est de la discipline. Je n'ai aucune motivation à faire du sport et j'en fais parce que je sais que c'est bon. Quand vous faites du sport, quel qu'il soit, alors ça peut être de la marche, ça peut être de la course, mais quand on prend même de la musculation, on pense que la musculation, c'est réservé à Thibaut InShape, les mecs balèzes qui ont... Mais pas du tout. En réalité, quand vous faites de la musculation, au niveau de vos muscles, vous allez produire des petites molécules qu'on appelle des myokines. Ces myokines, elles ont un pouvoir extraordinaire. Elles diminuent le risque de dépression, elles diminuent le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de maladies d'Alzheimer, de maladies de Parkinson. Elles diminuent les récidives en cas de cancer du sein et de cancer du côlon. C'est un truc de fou. La musculation diminue le risque de récidive de cancer. C'est surréaliste. Et cette activité physique, c'est un médicament. On a besoin de muscles pour être en bonne santé. On a besoin de bouger. Donc trouvez toutes les occasions que vous avez en journée pour bouger. Pas forcément d'aller à la salle de sport, mais l'activité physique, c'est une variable qui est non négociable. Deuxièmement, c'est votre alimentation. Il n'y a pas de secret. On s'est rendu compte que lorsqu'on a par exemple des patients, des gens qui sont un peu dépressifs, non, qui ont une vraie dépression, disons les mots tels quels, il n'y a pas de un peu dépressif, qui souffrent de dépression, lorsqu'on améliore leur alimentation et qu'ils se mettent à manger des fruits et des légumes, un truc basique, hein, on peut améliorer leurs symptômes de dépression. Je ne dis pas qu'on va tout régler avec ça, évidemment. On ne va pas résoudre tous les troubles psy avec l'alimentation, ce serait réducteur et faux. Pour autant, des études solides montrent que notre alimentation peut améliorer notre humeur. Et puis le dernier, comme je vous l'ai dit, c'est le sommeil. Si vous dormez pas, vous irez pas bien. Donc si je dors bien, j'irai bien. Si je bouge bien, j'irai bien. Et si je mange bien, j'irai bien. Basique. Je vous dis pas, allez manger des baies de goji et faire de la méditation en pleine conscience. Si vous le faites, tant mieux. Mais manger, bouger, dormez. Franchement, hyper simple.
Et à l'inverse, quelles seraient trois habitudes à ne pas prendre ou à réduire, peut-être plus implicites ou plus sous-estimées?
Bannissez les produits ultra transformés. Le McDo, KFC, Burger King, Quick, tout ce que vous voulez, en fait, c'est de la malbouffe. C'est des produits, c'est de la junk food, c'est des fast food, peu importe. Une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais ça ne fait pas partie de votre alimentation. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mettre de l'essence de mauvaise qualité dans votre voiture. Tiens, ma voiture, je vais en prendre soin. Pourquoi vous ne prendrez pas soin de votre voiture? Donc, considérez que ces aliments, en réalité, vous font plus de mal que de bien. Et essayez de voir au travers, au-delà du plaisir qu'on a dans la bouche. Moi, vous me donnez un hamburger, je vais le manger. Évidemment que c'est super bon et les hamburgers ne sont pas interdits. Mais en vrai, quand on cumule l'hamburger, les frites, le coca et qu'on se fait un McFlurry à la fin, on n'a pas nourri son corps et son esprit. On s'est un peu gavé. Deuxième chose que moi, j'éviterais de faire, c'est de rester inactif. La sédentarité est votre ennemi. Et souvent, on se dit « Oh, mais ça va, j'ai été courir deux fois par semaine, c'est bien. » Ouais, c'est bien de courir deux fois par semaine, mais est-ce que durant toute la semaine, vous êtes resté sédentaire, assis sur une chaise? Et notre société, elle conditionne beaucoup les adolescents à être assis du matin au soir. On devrait passer d'une société où on cloue les enfants de 8h à 17h sur une chaise à une société où on permet aux enfants de se lever un peu plus tard, aller à l'école à 9h. 8h, c'est trop tôt, parce que si on doit se lever, qu'on doit en plus se taper le transport, et en plus quand on est un adolescent, on est un peu décalé, donc on a du mal à dormir tôt le soir. On crée des ados déprimés. Mais en fait, l'école, c'est une garderie. En fait, l'école est une variable d'ajustement pour la société, pour permettre aux parents de vite aller travailler, d'être rentables. Et on n'a pas créé une école sur mesure qui permet aux enfants d'être épanouis. Donc, c'est une école où les enfants, normalement, commencent à 9h facilement, où ils ont les sciences fondamentales le matin. D'accord ? On leur fait les maths, tous les trucs un peu pénibles pour eux. Et l'après-midi, on leur permet de faire de l'activité physique. En fait, nous, on a des enfants, ils sont sur une chaise, 13h, ils n'en peuvent plus, on leur met des maths, c'est un non-sens total. Et donc, il faut absolument s'éloigner de la sédentarité. Donc, il faut bouger. Et troisième chose que j'éviterais de faire, c'est de me mettre en dette de sommeil. Et moi, j'ai bien compris que... Et d'ailleurs, dans les études de médecine, le sommeil n'est pas valorisé. Moi, je suis médecin généraliste, j'ai passé ma thèse en 2015-2016, donc c'est pas si vieux que ça. Le sommeil, c'était quelques diapos, c'était un truc anecdotique. Et je pense que c'est aussi parce que les médecins doivent faire des gardes. Et si on nous avait si bien sensibilisés à l'importance du sommeil, plus personne n'accepterait de travailler à l'hôpital et de travailler la nuit. Parce qu'on se rend compte que c'est une torture, le manque de sommeil. D'ailleurs, on a montré par exemple que les infirmières qui travaillent de nuit, c'est un peu anxiogène, mais c'est une information qu'on doit avoir, ont plus de risques de cancer du sein que les autres. En fait, le manque de sommeil augmente le risque de cancer. Donc, mettez toutes les chances de vos côtés. Et vous allez dire, mais ils tournent en boucle. Mais c'est basique. Sortez de ce podcast, cette émission, avec trois messages simples. L'alimentation, le sommeil, l'activité physique. Et parfois, il y a un des trois piliers qu'on ne peut pas faire absolument, et je le comprends. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, non, mais le sport, c'est mort, j'en ferai pas. Ok, je ne vous force pas, je vous donne l'information. Misez à fond sur le sommeil et l'alimentation. Vous avez un trépied, c'est un tabouret. Si on enlève un pied, normalement, la chaise se casse la figure. Mais dans ces cas-là, en béton armé pour les deux autres. C'est vraiment pour moi le pilier d'une vie. En tout cas, on mettra toutes les chances de notre côté. Parce qu'on n'est pas tous égaux. Et certains, on a toujours ce truc-là. Hein. Et ouais, ma grand-mère, elle buvait de l'alcool tous les jours. Elle a vécu jusqu'à 100 ans, foutez-nous la paix. Ouais, mais ma grand-mère, à l'époque, elle n'était pas sur Netflix, ni sur TikTok. Elle n'était pas sédentaire sur sa chaise. La grand-mère, elle sortait dehors. Elle avait soit un jardin, elle était entourée, elle a été valorisée. Donc attention à ces pensées un peu réductrices de... Ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 100 ans et mon papy, il a fumé comme un pompier, il va très bien. Ah, on n'est pas tous égaux. Nous, on donne des recommandations et puis effectivement, certains vont faire n'importe quoi et ça va très bien se passer. Je suis content pour eux, mais l'idée, c'est quand même de donner le plus de messages et de conseils validés par la science.
Petite interro surprise. Donc, je vais vous partager des... idées reçues, et vous allez nous dire si elles sont vraies ou fausses, et vous pouvez dire en un mot pourquoi.
Okay.
Il faut absolument faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé.
Faux. Il faut faire plus de pas que la veille ou l'année dernière ou l'avant-veille. Si vous faites 5000 pas, c'est déjà très bien. Eh bien, l'année prochaine, faites-en 5500. Essayez juste de vous améliorer. Et si vous en faites 10 000, l'année prochaine, faites-en 10 500.
Bouger même quand on est mal est souvent plus bénéfique que le repos.
Ah, c'est vrai de chez vrai. Oh, que vous soyez mal, quel que soit le mal. Mal de dos, vous êtes mal dans votre tête, dans votre... Obligez-vous à bouger. Je sais que c'est hyper difficile, mais dites-vous, c'est comme un médicament. Et dites-vous, bon, de la même manière que je peux prendre un médicament, eh ben, je vais m'obliger à bouger. Oui, l'activité physique, elle sera bénéfique, quel que soit votre problème. Elle ne va pas tout résoudre, mais elle peut vous aider.
Le stress chronique peut favoriser la prise de poids.
Oui, évidemment, le stress, c'est un poison lent, un poison invisible, un poison sous-estimé. On parle de charge mentale des femmes, le stress est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Si vous êtes très stressé, vous avez plus de risque de faire un infarctus. Si vous êtes très stressé et que vous êtes diabétique, le taux de sucre augmente. Le stress est délétère pour notre santé. Donc oui, le stress est un poison et notre société est très anxiogène. On a besoin de stress pour réagir face à un danger, mais lorsqu'il est présent en permanence, il affaiblit nos systèmes immunitaires, on tombe plus souvent malade, on dort mal. C'est un poison, le stress.
Le café, on entend tout et son contraire. Est-ce que le café est mauvais pour le cœur et l'hypertension ?
Faux ! Le café, c'est une super boisson. Le café, quand on compare les buveurs de café aux non-buveurs de café, eh bien, les buveurs de café n'ont pas une tension artérielle plus élevée que les autres. Ça peut donner des petites palpitations quand on est un peu sensible à la caféine au tout début, mais sur le long terme, le café, c'est bon pour la santé, ça diminue même les maladies cardiovasculaires. Alors attention, le café peut perturber le sommeil quand même, donc en particulier quand on est jeune. Plus on est jeune, plus on est sensible à la caféine. Donc, et attention à la caféine contenue dans les boissons énergisantes, Red Bull et tout le tralala. Oh là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé comme boisson catastrophique avec un marketing mais tellement fort. C'est désolant, mais le vrai café, oui. La caféine présente dans le Red Bull, dans le Monster, c'est un grand non. D'accord ? Il contient de la taurine qui rend la caféine plus stable, qui va vous donner des palpitations. Ça, ça fait monter la tension artérielle, ça va vous mettre mal, il n'y a pas d'énergie, il n'y a que du sucre. Mon Dieu, quelle invention catastrophique. Ouais, vraiment.
Et enfin, il faut éliminer le gras de son alimentation pour être en bonne santé.
Non, c'est archi faux, on a besoin de gras, on dit le gras c'est la vie. Mais quitte à réduire quelque chose de son alimentation, c'est plutôt notre alimentation sucrée en réalité. Le sucre n'est pas interdit, je ne vous dirai jamais de ne pas manger de pommes, de fruits, ou de temps en temps de vous faire un kiff, mais un yaourt, personnellement par exemple, je préfère un yaourt gras, un yaourt grec, qu'un yaourt light 0% qui n'a aucune saveur, qui n'a aucun intérêt. Le gras ne favorise pas les maladies cardiovasculaires, le gras ne fait pas grossir et le gras est indispensable à une vie en bonne santé. Donc non, et le fromage c'est gras par exemple, mais c'est bon pour la santé, donc non, vive le gras. Avec modération évidemment.
Ça va être repris, ça va devenir un mème.
Vive le gras.
On va terminer par les questions des élèves. Du coup, j'ai sélectionné trois questions. Marie nous demande comment gérer les changements du corps à stocker du gras à la fin de la vingtaine.
Alors, il va falloir qu'on se dise que le corps change avec le temps et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter après la vingtaine. Il y a la période de la contraception quand on en prend une, donc il y a déjà l'adolescence, le corps change. La période de la contraception quand on est adulte, s'il y a une grossesse, si on accouche, la ménopause. Donc il faut accepter que le corps change. Et je pense que ça passera par le fait d'accepter que ça change. Et qu'en fait, on ne peut pas être la même personne de 7 ans à 77 ans. Et que, bah, en fait, oui, le corps change. Parfois, on va grossir, parfois, on va maigrir. En fait, on s'en fout. C'est comment je me sens. Est-ce que je me sens bien physiquement, mentalement? Est-ce que mon poids est un obstacle à ma vie en bonne santé? Pas au summer body, ça, on s'en fout complètement. Mais est-ce que... voilà, ma silhouette, est-ce que l'énergie que je mets dans mon corps me permet d'être heureux et en bonne santé? Il faut juste se poser cette question. Après, la taille du pantalon, que je fasse un 38, un 42, un 44, un 46, c'est une histoire de mode. Après, si vous êtes heureux et heureuse, je suis content pour vous, mais dites-vous que le corps change et il faut l'accepter. Et on est beaucoup plus sévère avec les femmes qu'avec les hommes, parce que les hommes, ils ont cette chance, entre guillemets, de ne pas subir les variations hormonales qu'une femme va subir. Un homme... il y a la puberté, il y a la voix qui change. Et puis, très tardivement, il a ce qu'on appelle l'andropause. Et même, pas tous les hommes ne l'ont de la même façon. Donc voilà, il y a cette inégalité. Il faut accepter que le corps change. Et la société doit accepter que le corps des femmes change.
Blandine nous pose cette question merveilleuse. Est-ce qu'une nouvelle hygiène de vie saine peut effacer 20 ans d'hygiène de vie de merde ?
Il n'est jamais trop tard pour s'améliorer. Et je vais prendre une étude assez intéressante. On s'est rendu compte qu'à 25 ans, si les gens changent leur alimentation et mangent mieux, juste ça, des fruits et des légumes, ils pouvaient gagner, par rapport à ce qui était prévu, 12 à 13 ans d'espérance de vie en plus, à 25 ans. Mais on se dit, bah oui, mais moi j'ai 50 ans, 60 ans, c'est peut-être trop tard. Ah ben non, si on fait les mêmes changements à 60 ans, on peut gagner 7 ans d'espérance de vie. Et même à 80 ans, si on améliore son alimentation, par rapport à ce qui était prévu, vous pouvez gagner 3 à 4 ans d'espérance de vie. Donc on ne pourra jamais effacer tout ce qui s'est passé par le passé, de la même manière que quand quelqu'un vous blesse et s'excuse, il a beau s'excuser, la blessure elle est là, pour autant il faut avancer. Donc ne vous dites pas, ah ça y est c'est foutu, dites-vous qu'on peut toujours s'améliorer et l'idée c'est de faire... voilà, un petit changement par-ci, par-là. N'essayez pas d'être drastique dans vos changements. Souvent, on se dit, 1er janvier, je change tout. C'est l'été, je me mets à faire du sport. Non. Dites-vous, OK, dans ma vie, est-ce qu'il y a peut-être un truc que je peux améliorer? Pas 10, déjà 1. Et une fois que ça s'est fait, est-ce que je me sens mieux? Si je me sens mieux, tiens, il y a peut-être un autre truc. Allez-y progressivement et il n'est jamais trop tard pour s'améliorer.
Et enfin, la dernière question de Camille, que j'ai trouvée extrêmement intéressante parce qu'en plus, c'est d'actualité. Donc voilà, vous rappelez souvent les dangers du tabac et de l'alcool qui sont classés par l'OMS dans le groupe 1 des substances cancérogènes. La pilule contraceptive vient d'être classée au même niveau et des millions de femmes la prennent. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, je pense que c'est maladroit de classer la pilule au même degré, stade que la cigarette.
C'est l'OMS qui a fait ça.
Alors, la contraception, malgré tout, c'est une chance pour les femmes d'avoir accès à la contraception. Il y a des pays où on ne peut pas avoir accès à une contraception. Donc, c'est la liberté de la femme de pouvoir prendre une contraception. Alors, je ne sous-estime pas l'influence négative que peut avoir la contraception sur le corps d'une femme. Pour autant, on ne peut pas comparer la cigarette à la contraception. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas une, mais des contraceptions. On se rend compte qu'il y a une défiance, notamment des hormones, à juste titre. Puisque les hormones chez la femme changent le corps, changent aussi parfois la perception de l'alimentation. On se rend compte que certains ont plus envie de manger, on va parfois prendre du poids, il peut y avoir des troubles de l'humeur. Donc, à chaque femme doit correspondre sa contraception, qu'elle a choisie, qui lui convient et qu'elle peut changer à tout instant. Donc, attention de ne pas se dire la pilule, c'est horrible. Il y a des femmes qui sont très heureuses avec la pilule, d'autres qui ne la tolèrent pas. Et quand on ne la tolère pas, à nous de trouver une alternative et aussi de développer peut-être la contraception pour les hommes, parce qu'on fait subir le poids de la contraception à la femme. Et on parle de contraception chez l'homme, il y a très peu de choses qui sont faites. Il y a des anneaux, il y a la vasectomie, mais on est encore un peu à l'âge de pierre de la contraception pour les hommes. Donc je comprends la défiance, il y a des effets secondaires à la contraception, mais je ne pourrais pas la classer au même niveau que le tabac.
Et enfin, Dimi, je vais vous poser la question signature de cette émission. Ça signifie quoi pour vous, devenir adulte?
Ça veut dire quoi, devenir adulte? C'est dur comme question, ça.
Sinon, c'est pas drôle.
Ouais, ça veut dire quoi, être adulte? Trouver un sens à sa vie. Je pense qu'on devient adulte le jour où on se dit « Ah, ce que je fais a du sens et je suis en paix avec moi-même ». Je pense qu'on est en paix le jour où on a du sens dans ce qu'on fait. Et à nous trouver le sens... pas forcément que dans le travail. Souvent, on résume notre fonction et c'est une des premières choses qu'en tout cas en France, qu'on pose aux gens quand on leur raconte « Tu fais quoi dans la vie ?» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois peintre, ingénieur, femme de ménage? Notre travail ne nous définit pas. Et à nous trouver du sens dans sa vie, quel qu'il soit, au travers du bien que vous pouvez faire avec des proches, si vous êtes aidant, vous occupez de votre papa, de votre maman, vous avez du sens dans votre vie, si vous êtes engagé dans une association, si vous faites un métier qui vous fait plaisir, ou vous avez du sens, vous aidez les gens, mais je pense qu'on devient adulte le jour où on est en paix avec soi-même et qu'on a trouvé du sens dans notre vie, au sens large. C'est ma définition, je ne sais pas si elle est bonne en tout cas.
On est une classe spéciale, on ne note pas nos élèves. Merci beaucoup Jimmy pour ce que vous faites. J'invite les auditeurs, les auditrices déjà à lire votre livre « Je mange bien, je vais bien » aux éditions Flammarion et à vous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer à s'informer, pour prendre soin de soi.
Avec plaisir.
Merci.
Merci.
Adolescence est un podcast original de France Inter.